va respirer fort la bouche ouverte. Encore plus fort. Encore. C'est bon. On va encore prendre la tension. Pour savoir combien de sucre vous avez, d'accord?
La lumière est toujours allumée à l'hôpital et la porte est toujours ouverte.
Bonjour à tous. Près de 10% de la population vit dans une zone où l'offre de soins est insuffisante. En d'autres termes, ce sont les déserts médicaux, ces zones rurales où la population diminue et vieillit. Un plan pour remédier à ces déserts médicaux est attendu pour cette rentrée. En substance, il vise à doubler le nombre de maisons de santé qui regroupent plusieurs spécialités en un seul lieu. Il devrait aussi développer la télémédecine, ses consultations à distance, ce qui ne manquera pas de soulever une autre injustice subie par ces mêmes territoires, à savoir la fracture numérique.
Médecine 1 pour médecine B.
Pour ce premier numéro de la nouvelle saison d'Interception, Véronique Julia s'est rendue à Auxerre, dans l'Yonne, près de 35 000 habitants, à seulement 170 km au sud-est de Paris, mais la ville se retrouve enclavée. Auxerre a perdu, il y a quelques années, sa desserte TGV qui la rendait, fut un temps, proche de la capitale. Le secteur n'est pas attractif, les besoins en soins sont pourtant chaque année en augmentation, alors devant un tel paradoxe, le dernier recours, c'est l'hôpital. Véronique Julia et Hélène Langlois ont accompagné plusieurs jours les équipes de l'établissement public d'Auxerre. Mais là aussi, il faut faire des miracles pour remplir les tableaux de service et donc pour soigner au quotidien. Voici leur reportage.
Interception, le magazine de la rédaction.
Appelez le médecin.
Ma collègue est partie chercher le médecin. Ma collègue est partie chercher le médecin, monsieur.
Bah, qui se dépêche, oui.
Il a d'autres patients à s'occuper aussi, je sais pas tout.
Je m'en bats les couilles, moi, ça fout plus je sais pas combien de temps. Moi, j'ai pas demandé à venir ici, moi, pour elle. J'ai pas demandé à ce que vous me mettez ça.
Vous cherchez moi.
Je m'en vais. Je vois, et je l'arrache pour ça.
Non, faut pas. Mais je vous ai fait quoi
mère. Mais j'ai les nerfs contre vous, la tête de ma mère. Vous tous, là. Monsieur. Et ben, je vais dormir dehors, alors je sors.
Non. Là, on vous laisse sortir demain.
Pas demander à moi-même.
Vu que vous n'avez plus de logement pour ce soir.
Je m'en bats les couilles.
Là, vous avez une
chambre. Mais au moins, là, vous avez une chambre.
Je m'en profite.
C'est ça.
Mais on vous allez pas dormir dehors.
Je m'en bats les couilles. C'est votre problème. Est-ce que c'est votre problème?
Non, on est là pour vous aider.
Voilà. Alors, si je veux dormir dehors, je dors dehors.
Non, on est là pour vous aider.
Je m'en fous. Je sors. Je m'en bats les couilles.
On va se calmer. Qu'est-ce qui se passe?
Je m'en fous. Il se passe rien. Je me casse d'ici.
Vous voulez partir où?
Je pars dehors, où j'ai mon habitude d'être.
Je suis le docteur Rebatarik, médecin urgentiste à l'hôpital d'Auxerre.
Qu'est-ce qu'il a ce garçon là? Il est là depuis le début de la soirée.
Il est venu pour des douleurs thoraciques. Et en fin de compte, on a retrouvé qu'il avait un surdosage en benzodiazépine. Et on a décidé de le garder. D'autant plus qu'il n'a pas. C'est un SDF, il n'a pas où dormir ce soir. Le problème, c'est qu'il ne veut pas rester.
On a retrouvé des benzodiazépines, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que c'est un surdosage en médicaments qui font dormir, qui font anti-stress. Quand on les prend en excès, il y a une somnolence qui s'ensuit.
Vous en avez beaucoup des cas comme ça?
Il y en a chaque soir des cas comme ça.
Cet aspect social du métier, ça vous plaît aussi?
Ah oui. Il faut avoir un certain degré d'empathie vis-à-vis de ses semblables pour faire ce métier, je pense. Si on ne fait que son devoir, on ne fait pas son devoir.
Vous faites ça depuis combien d'années?
Depuis tout le temps.
Et là, vous avez quel âge?
J'ai 53 ans. Et vous savez combien j'ai fait de gardes? J'ai fait 4000 gardes. Plus de 4000 gardes. Quand un médecin normal qui sort maintenant, en moyenne, il fait 1500 gardes. Dans toute sa carrière. J'ai plus vécu à l'hôpital que chez moi. Je fais une garde chaque deux jours, je fais une garde. À la limite, c'est un engagement, comme on s'engageait en religion avant, ou un truc comme ça. C'est un sacerdoce. Maintenant, les jeunes, je comprends qu'ils veulent vivre une vie normale. J'ai beaucoup de mes confrères sont divorcés, du fait du rythme de garde, des missions qui sont intenable, en fin de compte, pour une famille, c'est pas tenable de faire.
C'est pas une vie.
C'est pas une vie, non.
On va respirer fort, la bouche ouverte. Encore plus fort. ça. Quoi?
Moi, je suis Hélène Mazet, donc je suis médecin ici aux urgences. Mais je m'occupe que de ce secteur dit court, quoi. Donc tout ce qui arrive, qui est de la médecine générale en partie, et tout ce qui est alcool, psy, toute la petite traumatologie, suture.
Et là, vous avez quel âge? C'est pas
68.
Vous avez 68 ans?
Oui. Donc j'arrête à la fin de l'année.
Là, il est 9h du matin.
Oui.
Vous restez jusqu'à minuit ce soir?
Oui. Et je suis partie hier soir au CELU, c'était minuit et demi. 32 heures en deux jours.
Vous finissez à quelle heure, là?
Minuit, pareil. Mais minuit, dans le meilleur des cas. Ah, mais les vieux, ils les mettent au boulot.
Il y a du mouvement, un peu.
Il y avait, on a récupéré ce qu'on vous avait dit hier, les piccolos de la veille.
Et vous allez vous détendre, hein?
Mais vous aussi, alors, cette histoire de merde.
Je peux avoir une bandelette?
Tu peux répondre, monsieur.
On dira rien.
Tu le gardes pas, lui, hein.
C'est pas bien,
mais vous comprenez un peu mon histoire?
Faut pas cracher,
mon histoire de merde, là, comment
on a bien,
je vous mets en
compte.
Vous avez bien compris, bah, c'est très bien. Continuez à comprendre comme ça, la vie vous mènera loin. Mais pas moi, en tout cas. Eh ouais, je suis immortel, je suis Dieu. Il y a un problème là maintenant. Vous voulez jouer à quoi? À qui? Au Dieu? Au Dieu sur terre? On va jouer au Dieu sur terre alors.
Monsieur, calmez-vous, reposez-vous un petit peu. Essayez de vous détendre.
Vous avez ça aussi, dire qu'on vient d'être écouté, qui socialement on sent en grande difficulté.
Alors, c'est sûr qu'on n'a pas trop le temps de leur consacrer ce genre de. D'entretien. Alors on est une équipe de liaison hein, qui est faite d'infirmiers psy et d'un psychiatre coordinateur. Donc quand on est vraiment dans une situation de détresse psychologique, on fait appel à eux. Mais ils sont là de 9h à 16h, 16h30. Et souvent les problèmes, ils arrivent dans la nuit.
Et la nuit, vous faites comment?
On fait comme on peut.
Et quand vous tombez sur une grande détresse, à la fois par exemple de violence conjugale ou économique, vous faites comment?
Quand on a ce genre de problème en journée, on a les services sociaux. La nuit, on n'a personne. Et je vous dis souvent, ces problématiques-là, elles arrivent en fin de journée quand les services classiques administratifs sont fermés. Donc, des fois, on a des hospitalisations qui sont non justifiées, mais qu'on fait pour des questions humanitaires, quoi.
Je me suis fait agresser hier, on m'a donné un coup de batte sur le pied, et puis je me suis dit que ça allait passer, puis en fin de compte, non. On pense que c'est cassé, mais.
Ah, ça fait mal quand vous bougez.
Oui, ils avaient super mal même, mais bon, ils veulent pas...
Vous êtes arrivé à quelle heure?
À 13h.
Et là, il est...
4h30. 4h, presque et demie. Parce que 3h30 que je suis là en train d'attendre pour mon pied, et il y a 5 personnes qui sont passées devant. On me donne aucune explication, à part, bah, attendez, monsieur.
Comment?
Il n'y a plus assez de médecins, apparemment.
C'est-à-dire, c'est l'explication qu'on vous a donnée?
Voilà, c'est ça.
Il n'y a pas assez de médecins. Le médecin est au courant qu'on attend. 5 personnes qui nous passent devant alors que les problèmes, personne ne saigne, personne n'a un pied gonflé. Regardez l'état de son pied. Au bout d'un moment, vous ne pouvez même pas marcher, c'est cassé.
Cet après-midi, il y a un contexte un petit peu chaud là quand même.
Ah oui, oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a un médecin que j'ai dû arrêter en urgence. Trop de pression. C'est une jeune femme. J'ai dit, écoute, tu te reposes parce que c'est pas normal que voilà, on vous laisse assumer tout. Voilà, c'est trop facile.
Donc elle est rentrée chez elle.
Moi, je lui ai fait un arrêt de travail.
Sur une équipe de 5, vous êtes plus que 3.
Il y a que 2 internes, heureusement.
Ça arrive souvent, ça, ou pas?
Ça peut arriver.
On a vu des représentants d'usagers et des usagers qui nous disent il y a du retard, on attend trop.
Moi je priorise, c'est pas par, on n'est pas chez le boucher ou à la poste où on prend un ticket et on passe en ordre de passage, on passe en ordre d'urgence. C'est-à-dire qu'en fonction de la nature de l'urgence, moi j'ai un principe, déjà je vois tous les enfants. Tout ce qui est mineur, enfant, je les vois d'abord parce que je trouve qu'ils n'ont pas à attendre dans des salles d'attente. Bon, là on a de la pénitentiaire, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc je ne les fais pas attendre non plus. Il y a toujours un risque d'avoir ce type de population au sein d'un établissement qui n'est pas gardé pour, même s'ils ont deux gardiens avec. Donc voilà, donc moi je priorise en fonction des urgences médicales ou j'allais dire des urgences de sécurité. tout ce qui est gendarmerie, tout ce qui est pénitentiaire, ça passe avant.
Comment vous allez gérer cette absence des deux médecins?
Je ne sais pas. J'espère qu'ils vont rappeler d'autres, qu'il y aura peut-être des... Je ne sais pas. Moi, j'arrête à minuit. Donc, j'ai repris un certain nombre de malades de ma jeune collègue, là. Il y a donc un médecin à SMUR qui est sorti, le médecin qui s'en va à 18h30. On va être de moins à minuit. Il y en a un tout seul.
Vous avez des internes?
Ils ne peuvent pas être tout seuls, les internes. Il faut qu'ils soient seniorisés. Donc, il faut qu'il y ait des seniors derrière.
Il y a des gens dans le couloir, ils attendent quoi? Que des lits se libèrent aux étages?
Voilà. Alors, il y a deux types d'attentes. Des gens dont on attend les résultats, donc on les sort du box pour utiliser le box pour un autre patient. Il y a ceux qui sont en attente d'un examen de type radio ou autre, donc on attend que la radiologie les appelle. Et puis il y a ceux qui sont en attente de monter dans les étages. Et puis il y en a quelques-uns qui attendent une ambulance pour rentrer chez eux.
On parle souvent du manque de lits en aval, c'est une réalité ici?
C'est une réalité, les bilans de lits, là aujourd'hui ça a l'air de suivre à peu près, mais il y a des jours où c'est hôpital complet.
Oui bonjour docteur Derwisch, au SAMU.
Oui docteur, bonsoir, je suis sur l'accident de circulation à Saint-Martin-du-Tertre, donc moi j'ai pris en charge le conducteur. Donc le médecin SMUR est actuellement en train de s'occuper du blessé, le motard.
Les constantes, votre bilan clinique?
Alors, c'est un homme de 30 ans, il a un pouls à 110, une tension à 140-70 et une SAT à 98. Et donc, ce monsieur est traité pour hypocortisone. Et il se plaint d'une douleur au niveau du membre supérieur gauche, légère plaie et trauma et contusion au niveau du bras gauche.
D'accord. Il bouge les membres sans problème?
Oui, il bouge les membres, mais il se plaint d'une douleur sur 5, c'est 3 sur 5.
Très bien. Bah écoutez, pour moi, il n'y a pas de problème, vous pouvez le conduire aux urgences. Hein.
D'accord, ok.
Voilà.
C'est bon, alors donc on transporte sur le CH100.
Ça marche.
Ça marche.
Merci à vous.
Très bien, merci, bonne soirée.
Au revoir. De même, au revoir.
Diani, je suis urgentiste de formation depuis 1994. Je suis urgentiste aux urgences à l'hôpital d'Auxerre. En moyenne, on fait à peu près 36 000 passages par an. On a une activité qui avoisine à peu près 120-130 passages par jour.
Vous êtes combien pour gérer tout ça? Je parle de l'effectif des médecins.
On devrait être 35 équivalents temps plein.
Vous êtes combien?
On est 15 équivalents temps plein. Donc effectivement, la seule solution, c'est de faire appel à des médecins remplaçants, aux intérimaires. Ce qui permet effectivement de recevoir les patients dans des bonnes conditions et faire face à cette demande croissante au recours aux urgences.
Alors, on sait que ça coûte très cher, puis en plus, c'est des gens qui ne restent pas. C'est quoi les inconvénients?
Alors, les inconvénients, à mon sens, il y a le côté financier pour l'administration, pour les tutelles. Ça coûte cher. Il y a des médecins intérimaires qui viennent une fois, donc il n'y a pas d'investissement personnel dans l'établissement. Ils ne connaissent pas exactement le fonctionnement et le plateau technique de l'établissement, donc ça c'est l'inconvénient. Et heureusement, on arrive à fidéliser certains médecins remplaçants, certains intérimaires, qui reviennent régulièrement et qui connaissent les habitudes, les spécialités de l'hôpital, les possibilités d'hospitalisation, donc ils connaissent un peu le service. Mais effectivement, un médecin intérimaire qui vient remplacer une fois, effectivement, il y a beaucoup d'inconvénients. Ça rend service, mais il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas... C'est pas comme un médecin titulaire qui est là, qui connaît le service, qui s'engage à la qualité de la prise en charge, à l'organisation, qui connaît les médecins de Laval, qui connaît les habitudes de l'établissement, donc c'est pas pareil.
Est-ce que les urgences d'Auxerre peuvent continuer dans ces conditions, avec 15 titulaires quand il en faudrait 35? Combien de temps vous allez tenir comme ça?
C'est la question qu'on se pose et j'ai quand même espoir d'améliorer un peu les conditions de travail, d'essayer un peu, je suis en train de voir toutes les pistes pour être attractif et essayer d'avoir des recrutements. Donc là, il y a un médecin spécialiste qui va arriver, on va être 16. À partir du mois de septembre, il y a un autre médecin qui était remplaçant qui va être titularisé. Ça se fait tout doucement. On va essayer de monter marche par marche, de constituer une équipe. Et dès qu'on dépasse un seuil, on va devenir attractif. Donc c'est un cercle vertueux. Donc ça va être un médecin de médecins. Et puis après, quand on voit les intérimaires qui vont voir, par exemple, qu'il y a une équipe qui marche dans le bon sens, ça va attirer d'autres médecins pour venir nous rejoindre pour travailler ensemble.
L'hôpital d'Auxerre, il s'étale en centre-ville sur 15 hectares de terrain et soigne un bassin de population au sud de Lyon d'à peu près 200 000 habitants. L'hôpital compte 550 lits, il emploie 1700 personnels non médicaux et 170 médecins. Enfin 170, c'est le nombre de titulaires qui serait nécessaire pour faire tourner l'établissement. Mais l'hôpital a beaucoup de mal à les recruter. Pour s'en sortir, il fait appel à des médecins à diplôme étranger qui forment 45% des effectifs. Il recourt massivement aussi à l'intérim. Sur 170 postes de médecins, 35 sont vacants et donc occupés par des intérimaires. Ils viennent pour quelques jours ou quelques semaines et sont payés 2 à 3 fois plus qu'un titulaire. En pneumologie, par exemple, le service fonctionne grâce à des médecins comme Eddy, un pneumologue d'origine algérienne.
Moi, je suis intérimaire. Ça veut dire qu'on remplace le manque de médecins.
Et vous le remplacez pour une journée ou pour une...
Non, ça dépend des périodes.
Là, par exemple, vous êtes là pour combien de temps?
Une semaine.
C'est un choix?
C'est un choix.
Donc là, la semaine prochaine, vous êtes où?
Aurillac.
Et puis dans 2 semaines, vous serez où?
Carcassonne.
Vous dites c'est un choix, vous avez été à un moment...
J'étais dans le libéral.
Vous avez été pneumologue libéral?
Voilà, j'en avais marre, j'ai arrêté, je fais des remplacements maintenant.
C'est plus rémunérateur ou pas?
C'est pas le but.
Parce que les hôpitaux disent les intérimaires, ils nous coûtent hyper cher. Donc j'en ai déduit que vous étiez mieux payé.
Parce que je vais me défendre sur ça. L'intérêt dans ce que je fais, ça me laisse du temps. Si je travaille 15 jours par mois, j'ai 15 jours de repos. Donc je fais ce que je veux. On gagne une indemnité journalière, 550 par jour.
550 par jour?
Voilà, le généreux.
Net.
Ah oui, par rapport à un titulaire, c'est sûr que c'est mieux. Mais attendez, mais avec les contreparties, les inconvénients. Moi, si demain je trouve pas de remplaçant, j'ai rien. J'ai même pas de chômage. Nous, on peut prétendre à rien. Une fois qu'ils nous ont fait leur fiche de paye, si on n'a pas de boulot, si on tombe malade, on n'a rien.
Ça vous étonne pas qu'un service comme la pneumo ici dans cet hôpital tourne quasiment qu'avec des intérimaires?
Ils n'ont pas le choix. C'est ça ou fermé. Ce service, je le connais depuis 1 an et demi. Quand j'étais là la première fois, il y avait beaucoup de médecins. Il y avait la chef de service, il y avait des assistants, ils sont tous partis.
Ils en ont marre en fait.
La chef de service d'ici, je sais qu'elle va partir en Corse, ouais, elle préfère le soleil.
Donc les titulaires, ils veulent aller au soleil et les jeunes, ils veulent pas faire pneumo.
C'est un peu ça.
Qui gère vos intérims? Vous êtes inscrit dans une agence?
C'est des boîtes d'intérim qui sont en général à Paris.
Et spécialisées pour les docteurs?
Pour tout. Docteur, médecin généraliste, infirmière. Ah oui, gagne 1% sur le contrat ou 2, je sais pas.
Vous allez dans plein d'hôpitaux de ville moyenne et vous voyez se raréfier l'offre de médecins dans les hôpitaux. Il y a des services. Vous voyez des services fermés?
Il y a des services qui ont été fermés ou transformés. Par exemple, une pneumo qui ferme transforme les lits en gériatrie. Il y aura toujours du boulot.
Pascal Gouin, vous êtes directeur général de l'hôpital d'Auxerre.
Oui.
La population en fait que couvre l'hôpital d'Auxerre, elle a quelles caractéristiques?
La population de la France augmente, la population du sud de Lyon diminue. C'est une population qui prend de l'âge, qui est âgée. Les jeunes, dès lors qu'ils suivent des études, ils quittent la région. La sociologie de la population, c'est une population vieillissante, partiellement isolée dans les zones rurales. C'est des gens qui se soignent peu pour 2 raisons. Première raison, il y a une médecine de ville qui souffre autant que la médecine hospitalière, c'est-à-dire en nombre, elle est faible. Nos ratios par rapport à la métropole sont 1,5 à 2 fois plus faibles. Deuxième raison, la paupérisation qu'on constate. Il ne faut pas oublier qu'on a 9 millions de pauvres en France, enfin qui sont en dessous du seuil de pauvreté. On a largement notre part aussi sur le Sud-Yon. D'une part, c'est des gens qui n'ont pas les moyens de s'offrir des soins. Ça, je crois qu'il faut se dire les choses telles qu'elles sont. C'est des gens qui n'ont pas d'argent. On reporte ces soins à beaucoup plus tard et c'est souvent beaucoup trop tard. Avec des femmes qui viennent à des stades assez avancés dès lors que leur cancer est détecté. Et quand il est détecté, c'est souvent des stades assez conséquents, 3, voire 4, avec des capacités de rémission qui sont très faibles. On a des cas qui me sont rapportés, notamment par notre chef de service de gynécologie, de jeunes personnes de moins de 30 ans qui arrivent avec des cancers de l'utérus ou du sein à des stades sur lesquels on est plus sur un accompagnement, malheureusement, de fin de vie, plutôt qu'une une guérison de la personne.
Enfin, aller chez un médecin traitant conventionné, c'est remboursé, il y a la CMU quand même.
D'accord, mais bon, quand vous avez une image de vous-même dans les zones rurales, vous ne la dégradez pas. Et il y a beaucoup de personnes qui, dans ces zones-là, refusent d'aller voir un médecin parce qu'ils ont leur fierté, ce que je vous disais tout à l'heure. Des personnes qui sont juste au-dessus des critères CMU, et qui font des choix, qui sont bien obligés de faire des choix économiques, c'est soit manger, se loger, ou soit soigner. En règle générale, c'est d'abord manger. Pour se soigner, on n'a plus d'argent.
Alors vous-même, financièrement, comment se porte l'hôpital d'Auxerre?
Je dirais un peu... Il se porte très très mal depuis 2 ans, compte tenu de recours intensifs à l'intérim. Le déficit qu'on a eu en 2016, pour celui-là, il est clair, il est connu, c'est 3,6 millions, sur un budget... 160 millions d'euros, ça fait un peu plus de 2%. Les intérimaires, 3,5 millions. Mais il y a un différentiel, si on avait des emplois qu'on rémunérait de titulaires, c'est-à-dire c'est un différentiel de plus de 2 millions d'euros.
Est-ce que le manque de médecins récurrents que vous avez, finalement, vous empêche de soigner du monde ?
C'est regrettable, mais c'est vrai. Il faut regarder les choses en face et pas avoir peur de dire la vérité. Le fait qu'on n'ait pas des médecins dans des spécialités fait qu'il y a des personnes qui sont obligées d'aller se faire soigner et être pris en charge, soit à Dijon, soit à Paris, en fonction de la spécialité.
Bonjour, messieurs.
Bonjour.
Ça va ?
Oui, ça va, très bien.
Bon. Donc hier, on a vu que les artères étaient très malades.
Oui.
Donc... On ne peut pas mettre des ressorts pour revasculariser. On va faire de la chirurgie. Vous voulez être opéré où ?
À Paris, parce qu'à Paris, il y a tous les impôts.
D'accord, ok.
Voilà, je préfère être à Paris.
Bon, on prendra contact avec un chirurgien à Paris. Alors.
Ok.
Est-ce que c'est une opération qu'on ne fait pas à Auxerre ?
Non, il n'y a pas de chirurgie cardiaque à Auxerre. Respirez fort par la bouche.
J'ai 56 ans et je m'appelle Philippe.
Vous êtes là pour quoi, vous ?
Pour le cœur, au début on devait me faire une coro et puis en fin de compte ça n'a pas marché, donc il faut que je fasse une opération.
Vous n'avez pas trop chaud là, il fait une chaleur?
Ah bah si, il fait trop chaud, il devrait mettre des clims.
Ça vous choque qu'il n'y ait pas de clim dans un hôpital?
Surtout en cardio, oui quand même, parce que les gens qui sont cardiaques et puis qui sont diabétiques et tout ça, qui vont tout en même temps, il faudrait quand même une clim.
C'est votre cas d'être diabétique aussi?
Oui, je suis diabétique aussi, j'ai 5 piqûres par jour.
D'accord, vous êtes diabétique depuis combien de temps?
Depuis que j'ai été opéré du cancer des intestins.
Dis donc, vous avez un parcours chargé à l'hôpital.
Ah oui, pour avoir des opérations, j'en ai eu.
Vous habitez où, dans Lyon ?
À Villeneuve-sur-Yonne.
Vous arrivez à vous faire suivre régulièrement ? Vous manquez
non,
pas de médecin ?
Non, je n'ai pas de médecin traitant. Mon médecin traitant, il est à HL en Seine-et-Marne. Ici, on n'a pas de médecin traitant. Il n'y en a pas.
Vous faites 150 bornes pour aller voir le médecin traitant ?
Et encore, s'il y a de la place. Parce que je suis obligé de me lever à 4h du matin, prendre mon train à 6h du matin, pour arriver à Paris sur 8h. Après, j'ai encore le métro, les bus, pour arriver à mon médecin à 9h du matin pour l'ouverture.
Et vos spécialistes, ils sont dans la région parisienne aussi ?
Oui, spécialistes de la région parisienne.
Pourquoi vous avez trouvé personne dans le coin ?
Non.
C'est-à-dire, vous avez essayé ?
Oui, on a essayé, mais il n'y a personne où ils sont complets. Là, à Villeneuve-sur-Yonne, il y a encore un docteur qui s'en va à la retraite au mois de juillet. Donc, pas remplacé, rien. Voilà. Plus ça va, moins il y a de docteurs.
Alors, vous êtes un cas, on dit, polypathologie, en fait. Il y a le cœur, il y a le diabète.
Il y a un peu de tout.
Il y a un petit peu de tout.
La gangrène, donc, il ne s'avignait pas à l'hôpital de Sens, il m'envoyait au Creusot, dans le 71.
Vous avez fait une gangrène à cause du diabète ?
Oui. On m'a très bien, très, très, très bien soigné.
D'accord.
J'ai eu de la chance.
Vous avez sauvé votre pied ?
Oui.
Mais même avec quand même diabète, problèmes cardiaques, gangrènes récentes, etc., un médecin traitant dans la région n'a pas voulu vous prendre.
Non. Elle a dit, je ne peux pas vous prendre, j'ai pas de place. Voilà. Il a regardé mon dossier et puis il m'a dit non.
Donc quand vous n'allez pas bien, vous allez à l'hôpital.
Voilà.
Je m'appelle Antoine, j'ai 25 ans, je suis interne en médecine générale, actuellement en deuxième semestre aux urgences d'Auxerre, sur les 6 semestres que j'ai à faire pendant mon internat. Et moi, ma compagne étant de Chablis, j'essaye de faire la majorité de mes stages dans les environs. Moi, j'envisage de m'installer en tant que médecin généraliste en milieu rural, dans les environs de Chablis.
Vous, est-ce que la région, est-ce que le département vous aide? Est-ce qu'on a entendu que vous vouliez vous installer et ils sont venus un petit peu vous dire on va vous aider?
Alors oui, je fais partie des étudiants boursiers du Conseil Général. Là, moi, j'ai une aide pendant mon internat pour m'installer pendant 5 ans dans l'Yonne, peu importe où dans l'Yonne. En fait, on a un contrat qui nous engage, on a une bourse mensuelle qui est versée par le Conseil Général. En contrepartie, on doit s'installer pendant 5 ans dans l'Yonne. Après, il y a d'autres.
C'est combien l'aide?
L'aide, c'est dans les environs de 1 000 euros par mois, en moyenne. Pour moi, c'était idéal. Moi, je voulais déjà m'installer dans Lyon. En plus, on me propose d'avoir une aide financière pendant mon internat.
Vous serez diplômé quand?
Si tout se passe bien, à l'automne 2019.
Ça tombe bien, il y a un médecin qui part en retraite ou pas?
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est à peu près ça. Qui attend, en fait. Qui fait l'effort d'attendre mon diplôme et mon installation.
Il a quel âge?
Il est pas loin d'avoir 70 ans.
Si votre compagne n'avait pas pu travailler dans le coin, vous n'auriez pas eu le projet de vous y installer?
Non, bah non. C'est le souci des milieux ruraux. C'est vraiment le fait que nous, on a la chance de pouvoir aller où on veut. Souvent, on a des compagnes qui, s'ils ont fait des études ou quelque chose, la compagne, elle a un diplôme d'ingénieur. Si elle avait cherché dans sa branche, ça aurait été impossible qu'elle trouve un boulot ici. On aurait dû bouger sur Lyon, sur Paris, sur Dijon, mais on n'aurait pas pu rester ici.
Et là, elle a trouvé du boulot?
Oui, elle est viticultrice à Chablis, donc les vignes ne bougent pas, donc on restera ici. Il n'y a pas de souci sur ce côté-là, mais c'est vrai que si elle n'avait pas eu ce boulot-là, on serait parti.
Je m'appelle Marie-Vonne Raffa, je suis élue à la ville d'Auxerre depuis 2014, conseillère municipale déléguée à la santé.
Donc vous avez compris que l'emploi du conjoint était déterminant, du coup vous faites quelque chose?
La ville a posé le principe aujourd'hui, la ville d'Auxerre, de ne pas donner d'aide financière à l'installation, ce qui est le choix de certaines villes ou de certains départements. Nous, on n'a pas fait ce choix-là. Nous, on a fait un choix d'être plus dans l'écoute de ce qu'ils souhaitent pour s'installer et d'essayer d'y répondre de façon ponctuelle et individuelle. Alors pour le jeune médecin, par exemple, qui va s'installer 2018, le deal a été, et on l'a fait, c'était d'employer sa conjointe. Et la ville d'Auxerre a accueilli dans son personnel cette personne qui travaille sur le milieu culturel. On a offert un emploi et qu'on doit rendre pérenne pour qu'elle puisse rester. Ça, on peut le faire une fois, sauf qu'une collectivité comme la nôtre n'aura pas. Donc, il faut qu'on travaille avec l'industrie, il faut qu'on travaille de façon plus large pour offrir des postes qui sont souvent des postes de cadre supérieur sur notre ville et notre communauté de communes.
Mais par exemple, vous avez quoi comme grosse entreprise dans le coin et est-ce que vous les avez un petit peu travaillées?
C'est plus complexe que cela parce que c'est plutôt au cas par cas. C'est-à-dire, un médecin va venir, il va me dire ma conjointe, elle est, ou mon conjoint est. Et donc là, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut proposer sur une ville comme Auxerre. Et voilà, donc c'est plutôt au cas par cas. On ne peut pas deviner quel emploi va avoir le conjoint. Aujourd'hui, le médecin qui veut s'installer, il faut qu'on soit à son écoute. Je dirais, si on veut le capter, ben, on est obligé de se dire qu'est-ce qu'il cherche, quel style de logement il veut, est-ce qu'on connaît une bonne agence immobilière qui peut les orienter sur un logement qui peut être attractif, voilà. Quel est l'emploi, quels sont leurs intérêts, les enfants, est-ce qu'ils ont des enfants, de quel âge, est-ce que tout ça, cette offre-là, et la culture, on s'aperçoit que les gens, ben, ils viennent d'une grande ville, donc quand ils ils arrivent ici. Ils ont besoin aussi de savoir si on va voir un théâtre qui a une belle programmation, des équipements sportifs. C'est vraiment la vie en général, puisque le médecin, il veut, ben, comme tout à chacun, avoir du temps libre. Et ce temps libre, le passer de façon agréable et puis en famille. Donc, il faut qu'on ouvre nos possibilités très larges.
Alors les filles, l'enfant 36 semaines, il est né, il va bien, il vient pas chez nous, il monte près de sa maman, avec toujours les examens qui vont décider s'il va à un moment donné revenir chez nous ou pas. Okay. Sinon, ils vont bien les autres ?
Oui, ça va, ils vont bien. Okay.
Je suis docteur Alcabaz, mon prénom c'est Fares, j'ai 32 ans et je suis praticien attaché dans le service de pédiatrie en spécialité de néonatologie. J'ai fait mes études de médecine et spécialité en pédiatrie au Liban, à Beyrouth. Une fois que j'ai terminé mes études au Liban, j'ai voulu voir ailleurs et du coup j'ai atterri en France. Je peux dire que dans la situation, il y a situation de gagnant-gagnant. Ça veut dire que nous, on est à la recherche de trouver des postes où, en France où on peut faire plus d'expérience. Et en même temps, le système français, il a un peu besoin de nous pour remplir les postes vacants. Alors moi, j'ai dès mon arrivée en France, ça fait 4 ans et demi, j'ai travaillé dans les CHU de Paris, dans la région parisienne. Et du coup, j'avais un ami qui, à un moment donné, passé par Auxerre, qui m'a dit, bah, écoute, ta situation au niveau de papier, c'est un peu compliqué de trouver un poste à Paris. Moi, je te propose de entrer en communication avec le CH d'Auxerre, qui peut t'aider un peu, faciliter, trouver un poste pour travailler.
C'est-à-dire que l'hôpital vous a dit, si vous venez, on vous facilite tout ça?
C'est ça, c'est ça. Ils peuvent toujours trouver des solutions mieux que dans les grandes villes et dans les CHU. J'ai contacté le bureau des ressources humaines et du coup, on a fait un peu d'aller-retour et on a pris des décisions de venir ici.
Dans votre service, est-ce qu'il y a d'autres médecins étrangers ?
Oui, en fait.
Vous êtes combien ?
Dans notre service, en fait, comme français, il n'y a que le chef de service d'origine. Parce qu'il y a... Il y a deux qui venaient, trois, qui ont fait le même parcours que moi, qui sont venus des pays africains. Et moi, je suis le cinquième médecin dans le service.
Donc vous êtes cinq, et en fait, il y a un seul médecin de diplôme français.
Oui, c'est ça.
Votre diplôme libanais, il équivaut à un diplôme français. Comment vous avez fait pour faire reconnaître ce diplôme libanais ?
Alors ça, c'est un sujet qui est un peu compliqué. Notre diplôme libanais, il n'est pas reconnu en France, du coup on peut pas travailler comme étant médecin, du coup il y a tout un parcours à faire. Ça dure 4-5 ans au moins, je peux dire 4-5 ans pour pouvoir vraiment trouver le statut d'un pédiatre inscrit à l'ordre des médecins en France.
Et vous avez fait tout ça ?
C'est en cours.
Si c'était à refaire, vous le referiez ce parcours ?
Waouh, c'est une question que je ne suis pas posée, mais je dirais probablement non. C'était un parcours long, mais ça commence à donner un bon résultat à la fin, quand même. Allô ? Bah, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Il y a toujours des surprises, hein ? D'accord. Pour voir le protocole, qu'est-ce qu'on va lui donner contre. Ok, très bien. Merci. Salut.
La pénurie entraîne la pénurie, explique le directeur de l'hôpital. Un service qui tourne difficilement avec peu de titulaires et peu d'innovations n'attire pas les internes ou les jeunes diplômés qui aiment travailler en équipe et s'investir dans des projets excitants. Pour les séduire, l'hôpital d'Auxerre a donc créé, il y a 3 ans, une unité de recherche clinique pour mener des essais en cancérologie et dermatologie notamment. Le service cardiologie s'est quant à lui doté d'un plateau technique de grande qualité. Il a constitué aussi une équipe soudée autour d'un chef très respecté et ça marche. Dans ce service, pas de problème d'attractivité, même si tous les médecins n'envisagent pas forcément de faire toute leur vie dans cette ville.
Je m'appelle Olivier Ressancourt, je suis cardiologue dans le service de cardiologie. Je suis arrivé en novembre 1999.
Qu'est-ce qui vous a fait venir à Auxerre ?
La présence d'un collègue qui est devenu un ami, qui était parti à Auxerre 2 ans avant moi et qui m'a parlé d'un projet qui m'a tenté.
C'était quoi le projet ?
Développer un service de cardiologie qu'à l'époque quasi inexistant, un service de cardiologie moderne avec des explorations invasives, une prise en charge de toutes les urgences cardiologiques, autant que la technique et les autorisations puissent le permettre sur place.
On parle beaucoup de cette pénurie de médecins à Auxerre. Elle est pesante.
Elle est pesante parce que elle est de plus en plus présente. Elle n'est pas temporaire. Enfin, du moins, on ne peut pas le supposer. Si cette pénurie était temporaire, on se débrouillerait, on trouverait des plans B, on va dire. Mais là, on ne sait pas du tout comment ça va évoluer. Pour certaines spécialités, la prise en charge devient difficile.
Vous, est-ce que ça complique votre travail au quotidien ?
Bien sûr que ça complique notre travail au quotidien. Quand vous avez besoin d'un avis infectiologue, l'infectiologie est une spécialité dont on ne dispose pas au CERF. On a un infectiologue de Dijon qui passe une fois par semaine. Alors, bien sûr, on peut joindre au téléphone et c'est ce qu'on fait. En fait, la prise en charge, elle est là parce qu'on se débrouille. On transfère les patients, on appelle les spécialistes, on règle tout ce qu'on peut régler à distance. Mais ça rend les choses plus complexes, plus difficiles, plus... Voilà.
Par exemple, on voit qu'on manque de pneumologues.
Exact.
Vous, en cardio, j'imagine que de temps en temps, il y a des liens cœur-poumon et ça vous pose des problèmes ?
Bien sûr que ça nous pose des problèmes. Il y a une partie de la pneumologie usuelle qu'on arrive à gérer. En revanche, il y a des pathologies lourdes, la découverte d'un cancer du poumon, ce qui peut nous arriver, nous, dans notre service. La conduite à tenir, dans ce cas-là, elle nécessite bien sûr une prise en charge très spécialisée qu'on est incapable de proposer au patient, qu'il va falloir lui proposer, dont le patient bénéficiera au final, bien sûr, mais c'est beaucoup plus compliqué.
26 fenêtres, madame, 83 ans, tu connais ? Non, tu l'as pas encore eu cette dame ?
Si,
une patiente qui est rentrée en USIC le 13 pour décompensation cardiaque avec maladie de l'oreillette et qui est arrivée chez nous donc le 20. En fait, sa maladie de l'oreillette, ils se sont aperçus que ça lui faisait faire des pauses. Oui, voilà, mais concrètement, ils avaient discuté le PES, on ne le mettra pas finalement. Elle aura une ETT à faire, j'ai pas encore de date. Elle a eu un électro aujourd'hui. Au niveau sternal, tu sais, suite à son néo du sein, elle a eu avec la chimio en fait, et la radiothérapie. Voilà. Donc elle a toujours, en fait, elle a un petit point, si tu veux, qui est toujours ouvert et ça suppure. Donc le pansement est à refaire tous les jours et fucidine dessus. Donc on l'a emmené à la douche ce matin, on lui a fait le matin. Par contre, c'est prescrit 2 fois. La fucidine, je ne renlève pas le pansement le soir, vraiment une fois par jour. Okay. Voilà.
Samuel Bousseau, je suis cardiologue à l'hôpital d'Auxerre.
Ça fait combien de temps que vous êtes à l'hôpital d'Auxerre ?
Depuis mai 2014. Je vais avoir 32 ans. Ce qui m'a fait venir à Auxerre, c'est que moi j'étais interne, je suis bourguignon de base, j'ai fait mes études à Dijon. Donc dans le cursus d'interne, on passe dans tous les, ce qu'on appelle les hôpitaux périphériques, donc Chalon, pardon, Beaune. Auxerre, enfin voilà, on passe dans ces hôpitaux-là. Moi, j'ai eu la chance de passer ici assez tôt dans mon cursus, parce qu'en cardiologie, c'est un service qui est très attractif, qui a bonne réputation. Et donc, d'emblée, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai bien accroché avec l'équipe, l'activité était vraiment très sympa. Et donc, assez vite, je me suis positionné pour dans l'idée de rester ici plus tard. Et donc, je suis revenu sur mon dernier semestre d'interne, et après, assistant ici pour compléter ma formation.
Ils vous ont attiré avec pas mal d'arguments, notamment financiers ?
Financier, non, pas du tout. Moi, non, vraiment, ce qui m'a attiré, c'est vraiment, voilà, c'est l'équipe, c'est l'activité. On a la chance, enfin, en tout cas en cardio, d'avoir une activité qui est vraiment digne d'un CHU, où on a un plateau technique qui est très compétent, où on a des interventions qui sont dignes d'un CHU, avec de, par exemple, moi, je fais plus de la rythmologie, donc il y a des ablations de troubles du rythme complexes qui sont rarement faites dans des hôpitaux de cette taille-là, donc ça a été un argument. Sur la pose de défibrillateurs, de stimulateurs cardiaques, ce genre de choses, voilà, c'était quelque chose, moi, c'est plutôt ça, cet aspect-là. Et puis, il y a aussi le côté affectif, parce que vraiment, c'est des gens avec qui j'ai accroché, j'ai l'impression de bosser avec des amis.
Ça fait 2 ans et demi que vous êtes ici. Est-ce que vous vous dites, même pour des raisons personnelles, que vous n'allez pas forcément pouvoir rester dans une région comme celle-ci?
Moi, j'ai fait mes études à Dijon, donc je me suis implanté à Dijon d'un point de vue personnel. J'ai tout un réseau social, tous mes amis là-bas. J'ai encore mon appartement là-bas. Voilà, je continue à vivre à Dijon et c'est vrai que voilà, j'arrive pas à trancher pour l'instant. C'est est-ce que je privilégie un boulot que j'adore avec une équipe qui j'ai d'excellentes relations, ou est-ce que je privilégie un côté, une vie personnelle qui serait plus simple, effectivement, moins de trajets.
Plus épanouissante.
Plus épanouissante, probablement, oui.
Auxerre, c'est pas très attractif comme vie pour un homme de 32 ans.
Voilà, il n'y a pas une vie sociale extrêmement riche. Aller boire un verre en semaine, passer 22 heures, c'est compliqué. On va avoir du mal à trouver quelque chose d'ouvert, quoi. Voilà. Et puis surtout, voilà, j'insiste là-dessus aussi, c'est vrai qu'on se fait une vie sociale pendant tout son internat, où on rencontre des gens, où... et perdre ça plus tard, c'est difficile aussi, quoi. Il y a aussi le fait de partir, hein, qui n'est pas évident.
Docteur Soto, vous présidez la commission médicale de l'hôpital d'Auxerre. Au vu des difficultés de recrutement que connaît l'établissement, est-ce que parfois on est obligé, pour gérer quand même les trous au planning qui sont ingérables, de prendre le médecin qui se présente et de ne pas être forcément hyper regardant sur la qualité du CV? Le sens de ma question, c'est est-ce qu'on fait une moins bonne médecine parce que parfois on prend pas forcément les meilleurs?
Les intérimaires, ça devient très compliqué d'avoir des intérimaires. Et donc, effectivement, il arrive parfois qu'on ait des difficultés avec les intérimaires. Ça, c'est indéniable. Mais c'est la réflexion et la philosophie qu'on essaie d'inculquer dans le service, dans l'établissement. C'est que le recrutement d'un médecin dont les compétences sont insuffisantes obère le recrutement de médecins futurs. Alors, c'est souvent difficile, quand on a la pression d'un chef de service en disant « il me faut absolument quelqu'un », d'avoir une discussion collégiale en disant « certes, tu es en difficulté, mais si on recrute cette personne, sache que le recrutement va être beaucoup plus difficile après ». Mais c'est vrai que c'est une situation qu'on peut rencontrer.
Est-ce que vous plaidez pour une obligation qui serait faite aux médecins de venir faire 2 ans dans une zone un peu désertifiée? On en parle, ça fait partie du débat. Est-ce que vous militez pour ça?
Alors, c'est une question extrêmement compliquée. Alors, c'est vrai que imposer, c'est très difficile. Parce que vous avez des jeunes médecins qui terminent leur formation, qui sont âgés entre 27 et 30 ans, qui ont généralement un conjoint, des enfants. Et donc, c'est pas un seul médecin qu'on déplace, c'est une famille. En même temps, on a un vrai problème de société à régler. Et ce problème de société, si on ne le règle pas... on a découvert au cours de cette campagne électorale de France, il faut prendre conscience qu'on a dans ce pays des zones où des patients sont dans des situations extrêmement difficiles. Et je pense que c'est de la responsabilité à la fois des élus, à la fois de nos CHU, de nos hôpitaux de référence, des universités qui forment les médecins, de faire valoir à nouveau cette idée-là, qu'on est là pour soigner des patients et qu'on est au service du patient.
Il y a une inégalité face aux soins qui est en train de se creuser.
Tout à fait, c'est une réalité. On a un accès aux soins qui est très différent entre une grosse métropole, entre une métropole et une ville de moyenne importance, comme Auxerre, dans un bassin économique qui est plus défavorisé. On n'a pas les mêmes chances. Alors soit cette population-là a les moyens de se déplacer, ou elle ne l'a pas et donc néglige sa santé, et ça rejaillit sur l'espérance de vie.
Vous voyez comment l'avenir de cet établissement? Est-ce qu'on peut durablement se battre tous les jours de cette façon pour avoir ce quota de 170 médecins?
Il faut se battre. Alors on a tout à inventer, il faut qu'on trouve des solutions humaines, mais aussi sur nos façons de travailler. On l'a trouvé par exemple sur la prise en charge de l'accident vasculaire cérébral. Concrètement, quand un patient se présente avec un accident vasculaire cérébral au centre hospitalier d'Auxerre, il est examiné. L'imagerie scanner IRM est transmise au CHU de Dijon. On contacte le neurologue de garde au CHU de Dijon qui, par le biais de la téléconsultation, examine le patient avec l'urgentiste et on peut prendre des décisions, par exemple, de thrombolyse. Et je pense que dans bon nombre de domaines, il faut qu'on trouve ce type d'organisation.
Déserts médicaux, l'hôpital en dernier recours. C'était un reportage de Véronique Julia avec Hélène Langlois à la prise de son. La réalisation est signée Michel Soulier, assisté de Stéphane Combe. Mixage, Jean-Philippe Jeanne. Vous pouvez retrouver ce reportage sur la page internet de l'émission sur franceinter.fr. À dimanche prochain.